Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est une classe de terminale économique et sociale du lycée Honoré de Balzac, Porte de Clichy, à Paris. Plus de 30 élèves, une bonne classe, un public assez mélangé, dans un quartier pas particulièrement cossu, avec une bonne mixité sociale, comme on dit. Au départ, on avait eu l'idée d'aller écouter un cours d'économie sur la crise de 2008 pour remettre nos pendules à l'heure, à peu de frais, pour se redonner quelques bases, mine de rien. On pensait à un sujet comme la crise expliquée aux enfants ou l'économie pour les nuls qui nous aurait permis hypocritement d'en sortir moins bêtes. Sauf que voilà, au lycée Honoré de Balzac, en classe de terminale économique et sociale, les élèves sont loin d'être nuls et la professeure Victoire Patouillard, dont le nom ferait honneur à Balzac lui-même, nous donnait ce jour-là une magistrale leçon de pédagogie en même temps que d'économie. Question simple, réponse limpide, progression parfaite, grand 1, grand 2, grand 3, le tout tambour battant, chaque élève étant amené à participer et associé à la réflexion. La perfection du cours nous ravit parce qu'elle nous transmet, mais aussi parce qu'elle nous dit de l'école d'aujourd'hui. Et en écoutant le cours de Victoire Patouillard, on en venait à penser que pendant que les traders faisaient n'importe quoi dans les salles de marché, mettant en danger l'équilibre du monde, pendant ce temps, l'école républicaine et laïque, elle, faisait bien son boulot, transmettait des savoirs et formait des jeunes gens. C'est ce qu'on entendait le 13 octobre 2008 dans cette émission que nous avions diffusée pour la première fois à ce moment-là et que je vous propose d'écouter ou de réécouter dans le cadre de la semaine spéciale de France Culture consacrée à la grande crise de 2008.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on
fait. Aujourd'hui, c'est une séance un petit peu particulière puisqu'on va faire une analyse de la crise financière. Enfin, vous allez présenter les travaux de recherche que vous avez faits sur ce point. Alors, je vous marque au tableau le plan qu'on va suivre. Donc le grand titre, c'est « Analyse de la crise financière ».
La bourse de Tokyo a effectivement ouvert cette nuit sur un plongeon de 5%. Le Nikkei.
Et on va voir ça en plusieurs temps. On va d'abord reprendre tout le déroulé de cette crise jusqu'au point où on est arrivé aujourd'hui. Ensuite, on s'intéressera aux conséquences de cette crise financière et notamment aux conséquences sur l'économie réelle.
C'est Paris qui a connu la plus forte baisse, moins 9%.
Et on terminera par les grandes questions économiques qui sont comment sortir de cette crise et les débats entre les économistes aujourd'hui.
Alors comment maintenant expliquer et stopper ce qu'il faut bien appeler crack ?
Alors Elsa, s'il te plaît.
On est aujourd'hui dans la partie, j'allais dire quasi clinique, de la surréaction des bourses qui ne réagissent pas de manière rationnelle.
Alors, qu'est-ce qui veut bien commencer ? Quel est le point de départ ?
Se sacrifier, puisque ça a l'air d'être un sacrifice.
Qu'est-ce qui veut bien commencer ? Andrés, merci beaucoup.
On va dire que le point de départ, ça a été la crise des subprimes, qui consistait à faire des prêts immobiliers à des ménages peu solvables. Et étant donné qu'au bout d'un moment, on a constaté qu'ils n'étaient pas capables de rembourser ces prêts, ça a entraîné... des ménages se sont retrouvés à la rue et les banques sans leur argent qui devait leur revenir.
Alors, est-ce que tu peux simplement nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'à un moment les ménages n'ont plus pu rembourser ? Pourquoi 2004-2005 finalement on n'a pas de problème, on n'a pas de crise financière ? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, fin 2007 et à l'été, à partir de l'été 2007, qu'est-ce qui se passe ? Oui, Olivier.
Oui, en fait, la crise des subprimes a été associée à la crise du marché de l'immobilier, puisque donc ces ménages qui ne pouvaient plus rembourser leur crédit ont dû mettre en hypothèque leurs biens immobiliers. Mais à ce moment-là, les biens immobiliers avaient perdu de leur valeur puisque le marché de l'immobilier a chuté. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas eu assez d'argent pour rembourser les prêts, ce qui a entraîné la crise des subprimes.
D'accord. Vous m'avez dit que c'était pour des ménages peu solvables, ce qui est vrai. Alors quand vous êtes un ménage solvable et que vous voulez acheter une maison, comment vous faites ? Très concrètement, si vous... Alors on va imaginer que vous avez des revenus très très réguliers. Alors, comment vous faites pour acheter un appartement ? Oh là, c'est une question d'une abstraction pour vous. Donc je sais pas, imaginons que vous achetez un iPod à crédit. Comment vous allez faire ? Avec des revenus réguliers.
On doit présenter un dossier. Montrer à l'établissement qui va faire le prêt qu'on sera capable de le rembourser.
Voilà. Et alors, si vos revenus sont réguliers, si on considère qu'il n'y a pas trop de risques, vous allez avoir un taux, vous allez choisir un remboursement avec un taux fixe, avec des mensualités fixes et sur une durée fixe. Et vous savez exactement le montant de vos remboursements chaque mois. Vous savez exactement combien vous remboursez à l'avance. Mais ça, c'est une forme de prêt qui est réservée justement aux gens qui ont des revenus réguliers, qui sont considérés comme étant parfaitement solvables. Donc eux, comme il y a peu de risques, ils sont dans une situation relativement avantageuse. Alors par rapport à ça, les subprimes, comment ça fonctionne ? Alors, Mercedes.
Pour les ménages peu solvables, ils avaient... des taux d'intérêt qui variaient justement au fur et à mesure de leur revenu.
Donc, il s'agit d'un crédit avec un taux variable. Donc, les mensualités sont variables. Vous ne savez pas à l'avance combien vous allez rembourser. Alors, qu'est-ce qui se passe si les gens ne peuvent pas rembourser ? Donc, ce qu'on appelle un défaut de paiement. Que va faire la banque ? Oui.
La banque, normalement, réquisitionne le patrimoine, justement, des personnes qui ne peuvent pas rembourser, ce qui fait qu'elles vont revendre après leur patrimoine pour, justement, compenser le remboursement qui n'a pas pu être remboursé, en fait.
Oui. Donc, est-ce que la banque se retrouve dans une situation difficile ?
Voilà. Pas vraiment, a priori, puisque, normalement, elle devrait se refaire, entre guillemets... sur le remboursement, en fait.
Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les subprimes, c'est des prêts à très haut risque, mais au tout départ, tout allait bien. Tout allait bien parce que finalement, comme les prix de l'immobilier augmentaient, si un ménage ne pouvait pas rembourser ses mensualités, il s'agissait d'un crédit hypothécaire, donc la banque pouvait effectivement prendre la maison et la vendre plus cher de toute façon qu'elle n'avait été achetée. Donc au départ, même si ce sont des prêts à haut risque, parce que les ménages sont considérés comme étant à haut risque, on n'était pas dans une situation inquiétante. Mais du coup, là, dans ce qui va nous conduire à la crise des subprimes, il y a deux choses. À partir de 2005-2006, la Banque centrale américaine, donc la Fed, va augmenter progressivement les taux directeurs. Alors, quelles conséquences ça va avoir sur les mensualités que doivent rembourser nos ménages qui ont acheté une maison ou un appartement ? Alors, Nina.
Les ménages vont devoir rembourser plus d'argent chaque mois.
Et qu'est-ce qui se passe du côté du marché immobilier ? Alors, Mercedes, vas-y.
Justement, le prix des maisons a augmenté.
Et il y a eu un moment où on a un retournement, c'est-à-dire que le prix de l'immobilier arrête d'augmenter et on entre dans un moment de dépréciation. Alors, quel problème ça pose, toujours par rapport à nos histoires de crédit hypothécaire ? Parce que là, je veux qu'on arrive à une crise. Et pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'éléments inquiétants pour avoir une véritable crise. Alors, Eleonore.
Vu que le prix de l'immobilier il est en dépréciation, le fait que on essaye de revendre les maisons, ça ne sera pas assez pour rembourser les prêts qui ont été faits par les ménages peu solvables. Donc, ça commence à atteindre les établissements qui ont accordé les prêts.
Finalement, ça marchait bien tant que les prix de l'immobilier augmentaient et tant que les taux directeurs restaient bas. À partir du moment où les taux directeurs se mettent à augmenter et où les prix de l'immobilier n'augmentent plus,
on entre dans une situation difficile, mais qui aurait pu rester circonscrite à ces établissements de crédit, puisque finalement, ce sont seulement ces établissements de crédit qui ont accordé ces crédits, en sachant très bien que les ménages étaient à haut risque. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va se propager à l'ensemble du système bancaire et financier? Et comment les dominos se mettent à tomber en s'entraînant les uns les autres?
Bah, les banques, justement, avaient accumulé cette dette sur des hypothèques, donc des ménages peu solvables. Et ont pris toutes les dettes et les ont, en quelque sorte, revendues à d'autres agents qui, eux-mêmes, le revendraient par la suite pour accumuler ce capital. Et donc, ça s'est propagé dans toute l'économie et pas juste les banques qui assuraient les ménages qui ne pouvaient pas payer leur loyer.
Oui, donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de titrisation. Et c'était le fait de revendre sur les marchés financiers les créances des banques. Et ça se transforme en fait en obligations. Et donc les obligations, c'est la vente des créances. Et au départ, elles étaient locales. Et puis après, elles se sont répandues internationalement, en fait, sur les marchés financiers. Et voilà, c'est tout. C'est à peu près ça.
Oui, non, c'est exactement ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était extrêmement risqué, mais au départ, c'était très rentable. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était camoufler les très grands risques de ces crédits et mettre en avant surtout leur rentabilité. Donc là, il y a toutes sortes de techniques financières qu'on peut utiliser pour camoufler un petit peu ces risques. Là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la conséquence de ça, c'est ce qu'indiquaient donc Mercedes et Eleonore, c'est qu'effectivement, il y a toutes sortes d'investisseurs qui vont acquérir ces crédits hypothécaires. Et si la situation aujourd'hui est tellement inquiétante, c'est qu'en réalité, on a du mal à savoir qui en possède. Si vous voulez, il y a un phénomène de diffusion et il y a une très grande incertitude parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point. Donc là, il faut imaginer, hein, ça peut être n'importe qui. Donc il y a des fonds de pension norvégiens d'un petit village où ils ont acheté, ils ont placé leur argent pour avoir voilà, un retour sur cet argent qu'ils avaient placé. Et tout d'un coup, à partir du moment où on rentre dans la crise des subprimes, ils ne vont plus avoir cet argent. Et ce qu'on va leur dire, mais c'était extrêmement risqué. Mais ce qu'on leur avait surtout dit au départ, c'est que c'était extrêmement rentable.
France Culture, les pieds sur terre.
Donc voilà, on a effectivement, donc ça c'est ce qu'on appelle la titrisation. Et donc la titrisation, ça fait que ça s'étend à l'ensemble du secteur financier et pas seulement aux établissements de crédit en général.
C'est toujours la conséquence directe de la crise des crédits immobiliers. Lehman Brothers, la quatrième banque d'investissement américaine, va donc se déclarer en faillite aujourd'hui. En un an, la valeur de son action a été divisée par plus de 16 et cela faisait près de 25 ans qu'on n'avait pas assisté au naufrage d'une banque de cette importance aux États-Unis.
Donc à partir de ce moment-là, quand on voit des faillites bancaires extrêmement rapides et sur de véritables institutions, on a tous les signaux d'une véritable crise.
C'est un nouveau soubresaut dans la crise financière mondiale après la grande banque Lehman Brothers. C'est un autre géant au pied d'argile finalement qui se retrouve dans la tourmente, AIG, un mastodonte de l'assurance. Demain, nous connaîtrons les résultats d'une autre banque d'affaires, Goldman Sachs, et elle ne devrait pas être bonne.
Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voyez des banques faire faillite comme ça, très rapidement? Bon, alors, vous êtes pendant 5 minutes président des États-Unis. Que faites-vous?
Racheter des parts de ces établissements.
Alors, on peut racheter des parts et
les
devenir...
Les sauver, en quelque sorte. Essayer de les nationaliser.
Ah oui, alors, on peut essayer de les sauver. Une manière de les sauver, c'est de les racheter. Effectivement, du coup, si c'est l'État qui les rachète, ça devient une nationalisation. Et pourquoi pas simplement les laisser faire faillite? Après tout, c'est peut-être ça le jeu. Enfin, le jeu de l'économie. Ils ont fait des erreurs et ça se traduit par une faillite. Oui, Mercedes.
Je crois que c'est un peu la même chose, c'est que comme ces banques ont fait des prêts à d'autres banques et à d'autres acteurs économiques, si cette banque-là fait faillite, les autres vont eux aussi faire faillite, etc. et ainsi de suite. Donc toute l'économie, à la fin, va s'effondrer.
Alors, on va s'arrêter là pour notre crise des subprimes. Et avant de faire une pause, je vais vous distribuer des documents. Alors... Tu vas les faire passer. Éléonore, tu les fais passer de l'autre côté.
Merci.
Les dirigeants allemands, britanniques, français et italiens étaient ce soir réunis à l'Élysée pour tenter de trouver une réponse commune de l'Europe à la crise financière mondiale, la pire crise depuis les années 30. Écoutez Nicolas Sarkozy.
Nous avons tenu à prendre un engagement solennel des chefs d'État et de gouvernement de soutenir les établissements bancaires et financiers face à la crise.
En France, message de l'association des petits porteurs par la voix de son président, pas de panique.
Nous ne sommes pas paniqués, les banques sont complètement paniquées, elles ne maîtrisent pas du tout la crise.
La réserve fédérale américaine ne veut plus engager d'argent public, comme elle l'a fait précédemment, pour sauver des banques car ses sauvetages successifs coûteraient d'ores et déjà 200 milliards de dollars aux contribuables américains.
Les mécanismes par lesquels la crise financière dégrade la conjoncture économique sont bien connus. C'est d'abord la perte de confiance. La crise financière crée en effet un climat de défiance et d'incertitude qui a un impact direct sur l'activité économique. Les ménages augmentent leur épargne de précaution et diminuent leur consommation, qui représente de 60% à 70% du PIB selon les pays. Face à la baisse de la demande, les entreprises réduisent leurs projets d'embauche et d'investissement. Le comportement des banques joue un rôle d'amplification de la crise. Ayant accumulé d'importantes pertes avec la crise des subprimes, estimée à plus de 20 milliards d'euros en France, les banques sont fragilisées et réduisent leur activité. Elles augmentent leur taux d'intérêt et rationnent le crédit.
Donc il y a effectivement un climat d'inquiétude, ce qui fait que les banques vont hésiter à accorder des prêts. Alors là, on peut le mesurer aujourd'hui, hein, sur les dossiers sont beaucoup plus refusés. Et donc ça va jouer à la fois sur la consommation des ménages et puis également sur l'investissement des entreprises. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Là, on le voit arriver. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... On est capable de l'anticiper pour faire en sorte que ça n'advienne pas. Qui pourrait intervenir? Donc là, ça fait écho à ce qu'on disait au début du cours sur les taux d'intérêt. Quelle est la seule institution qui peut intervenir sur les taux d'intérêt? Alors, Laurine.
Dans le cas de la France, c'est la Banque Centrale Européenne. Et comme c'est elle qui décide des taux d'intérêt et de la politique économique qu'elle emploie, elle pourra soit décider d'augmenter les taux d'intérêt afin de réduire les crédits et la circulation de liquidités, soit baisser les taux d'intérêt pour favoriser la consommation et l'investissement.
Voilà. Alors, actuellement, le problème qu'on a sur le système bancaire aux États-Unis, mais du coup, ça se transmet par une sorte d'effet domino, c'est plutôt une crise de liquidité. Il n'y a pas suffisamment de liquidité. C'est bien pour ça que le gouvernement américain, la Fed, injecte des liquidités. Donc là, vraisemblablement, que va faire la Banque centrale? Donc pour l'instant, elle ne dit rien, il refuse de s'exprimer, mais vraisemblablement, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc là, tu nous as bien présenté les deux alternatives, mais au regard de la situation économique, oui, Lucas?
Je pense qu'elle va maintenir ses taux, justement, ses taux fédéraux. Donc contrairement, justement, à la Fed, qui, elle, va tout baisser, je pense. Les prix et les taux.
Pardon?
Les prix et les taux d'intérêt et fédéraux aussi.
D'accord. Alors, est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce... diagnostic? Oui, Éléonore.
En même temps, c'est pas étonnant. Enfin, je pense que la proposition de Lucas n'est pas si étonnante parce que la BCE, elle a quand même une importance, c'est de pas entraîner une inflation, en fait, plus que d'inciter à consommer ou à investir. Donc cette proposition, elle n'est pas si mauvaise, en fait. Ça serait pas étonnant qu'elle garde ses taux.
Dernier élément, le reste du monde. Alors, comment le reste du monde peut jouer sur la conjoncture économique française ?
En Europe, la forte ouverture extérieure des pays membres de l'Union rend ces derniers très dépendants de la conjoncture des ralentissements des principaux partenaires, l'Allemagne en premier. Par ailleurs, la forte appréciation de l'euro, plus 40% par rapport au dollar depuis 2001, a considérablement dégradé la compétitivité des entreprises en rendant plus coûteuses leurs exportations hors de la zone euro. Cette hausse de l'euro provoque une baisse de la croissance du PIB, comprise entre moins 0,6% et moins 1% selon les experts.
Eh bien oui, le cœur n'y est plus, il faut dire. Le CAC 40 chute de 2,88% à 4043 points dans un volume d'affaires de 2,3 milliards d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. S'il y a 10 jours, l'annonce du plan de sauvetage avait requinqué les marchés, force est de constater que l'accord survenu ce week-end n'a pas produit les mêmes effets. Il faut dire que dans l'intervalle, eh bien, la crise financière a fait de nouvelles victimes. Après Washington Mutual à la veille du week-end, c'est au tour de Fortis de frôler la catastrophe. Et du coup, eh bien, tout le compartiment financier flanche, avec en tout premier lieu Dexia qui plonge de 28,4%.
Alors, on va arriver au dernier point.
Du côté des changes, l'euro est à 43,48, moins 2%. Et puis,
comment sortir de la crise
du pétrole, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Brent revient sur les $100, moins 3.
Et on va revenir comme ça un petit peu sur le plan Paulson.
Dans un marché très nettement baissier, je vous rappelle que le CAC 40 cède actuellement 2,94% à 4043 à la bourse de Paris.
Les questions actuelles, et on va prendre donc une question de très court terme qui est comment sortir de la crise. Donc là, c'est les décisions à prendre dans les semaines qui viennent. Et la deuxième grande question qui est la question de la réglementation des marchés financiers. Donc faut-il réglementer davantage? Les marchés financiers. Alors, Andrés commence.
Moi, j'ai trouvé l'avis de Stiglitz, qui est un économiste prix Nobel de l'économie en 2001. Lui, il pense que le plan Paulson ne répond pas forcément au problème. Enfin, il ne répond pas au problème de fond. Mm-hmm. Il dit qu'on va, enfin, avec ce plan, on va plus aider les banques et les institutions financières, mais pas forcément les ménages.
Donc, d'une certaine manière, il pense qu'il ne faut pas simplement répondre à la question « comment sortir de la crise aujourd'hui ?», mais il faut se demander « qu'est-ce qu'il faut changer dans les marchés financiers ?». Puisque là, depuis 10 ans, ce n'est pas comme si c'était la première crise qui était traversée. Et depuis 10 ans, on a déjà eu 5 crises financières. Donc elles sont très fréquentes et peut-être qu'il faut en tirer les leçons. Donc est-ce qu'il ne faut pas plus de réglementation ? Donc là, ça renvoie à un très très grand débat en économie. Est-ce qu'il faut plus réglementer ou est-ce qu'il faut moins réglementer ? Et aujourd'hui, si vous voyez les interventions des économistes, ça porte là-dessus. Est-ce qu'il faut profiter de ce moment pour réglementer davantage ou alors plutôt mieux réglementer, parce qu'il y a des règles pour les marchés financiers, mais on voit qu'elles n'ont pas fonctionné. Et donc, une question donc, sur la question du contrôle et de la réglementation. Maintenant, il reste quand même beaucoup d'incertitudes et certaines zones d'ombre. Donc, je voudrais qu'on termine par les questions qui nous restent et les questions que vous auriez envie de poser à quelqu'un qui serait spécialiste d'économie financière ou qui serait trader et qui serait donc dans son travail directement touché par ces questions.
Alors, si vous étiez un économiste, je vous demanderais où pourrais-je acheter des actions, de placer mon argent.
Il ne faut pas perdre le nord. Peut-être qu'il y a des profits à faire en ce moment. Et effectivement, spéculons un petit peu. Alors, on continue.
Beaucoup de journalistes, de politiques et même d'économistes dénoncent le fait que ce soit la faute du capitalisme. Est-ce vrai ?
Je pose une question à un économiste. Justement, est-ce que le fait que cette crise financière mondiale n'ait pas plus de conséquences justement sur les petits pays en développement. Et justement, est-ce que ça ne va pas justement les couler encore plus dans leur développement, donc au niveau international, qui va vraiment être perdant justement dans cette crise?
En fait, l'une des questions que je me pose aussi, si c'est pas le moment où que maintenant les États-Unis perdent leur suprématie et qu'une nouvelle puissance surgisse.
Bah, c'est une question qui s'adresse aux traders. Est-ce qu'il se... à une... dans un moment où on reproche beaucoup aux spéculateurs la crise, est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité chez vous, les traders?
Est-ce qu'on a le droit d'être nostalgique du bon vieux temps où on fixait le prix d'un sac de patates en se serrant dans la main?
Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency, Babylon. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas, dans le show, hommage à l'art pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y.
La crise expliquée aux enfants, c'était Les Pieds sur Terre avec cette émission diffusée pour la première fois le 13 octobre 2008, signée Delphine Saltel et réalisée par Christine Robert avec un coup de main de François Connac. Merci à Victoire Patouillard, à Joseph Confavreux, Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, c'est notre stagiaire.
Un techno-pique-nique sur la Terre éventrée, la faille est creusée, atomisée. Claudia Schiffer dit qu'elle a même pas peur et tout le monde applaudit à la télé. Ressaisis-toi, ressaisis-toi, faut courir maintenant. Elle est dans un bunker, y'a plus de programme, y'a même plus d'heure à vous l'antenne. C'est l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie.